Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Dans le corps humain, Dieu s'est organisé pour mettre des cellules. En fait, on est un peu tous comme Wolverine. Vous connaissez Wolverine? Ok, il y en a qui ne connaissent pas. C'est Marvel. Wolverine, Logan. C'est un mutant qui a un pouvoir d'auto-régénération. Dans notre corps, normalement, quand on se blesse, notre corps s'auto-guérit. Les médicaments qui nous sont donnés sont là pour parfois accélérer le processus ou détruire des microbes qui pourraient empêcher le processus d'auto-guérison. Vous êtes prêts? Oh mon Dieu, c'est bien. Ça veut dire que normalement, le corps, qui est une image, dans nos vies, normalement, Dieu s'est organisé pour que quand on nous blesse, on s'auto-guérisse. Attendez, vous allez vous rendre compte, parce que moi j'étais un boudeur professionnel, pour bouder longtemps, il faut vous remémorer. Dès que tu étais fâché, la personne arrive, elle te voit et elle veut te parler. Et tu n'as pas envie qu'elle te parle. Tu dois chercher. C'est trop facile. Après ce qu'elle m'a fait. Ça dit que l'émotion a déjà diminué. Mais l'ego et l'orgueil font que tu te dises que bah, je ne parle pas le premier. C'est pas moi qui vais parler le premier ou la première. C'est pas moi. Oh, c'est pas moi. Elle ne m'appelle pas. Il ne m'appelle pas. Même si il ou elle m'a appelé, je n'ai pas décroché. Il n'a qu'à rappeler. Elle n'a qu'à rappeler. Écoutez-moi. Moi, je vous le dis par expérience, pas parce que les gens, moi-même, j'étais un boudeur professionnel, invétéré. La vie est vraiment dommage parfois, la vie. Suivez-moi. La vérité, c'est que, à cause des différences en termes de personnalité, les extravertis, parce qu'il a dit les intros sont les grands boudeurs, les extravertis extériorisent rapidement ce qu'ils ressentent. Et comme ils se fâchent vite, ils pardonnent vite, ils guérissent vite, ils passent vite. Ils explosent. Est-ce que vous voyez? L'avantage de ça, c'est qu'en réalité, ils ne restent pas longtemps sur quelque chose, même quand ils échouent. Ce sont des fonceurs. Ils affrontent vite les défis. Ils vont vite à un nouveau challenge. Ils ont besoin que les choses bougent. Les extravertis s'ennuient vite, dans la routine. L'inconvénient ou les inconvénients, c'est que certains, s'ils n'ont pas travaillé sur eux, sont aussi vite des lâcheurs. Dès qu'ils rencontrent une difficulté imprévue, ils abandonnent. C'est pas le bon, c'est pas la bonne, c'était pas la bonne affaire, c'était pas le bon truc, c'était pas... Ils veulent vite passer à autre chose. Et parfois, leur explosion est brutale. Ils sont capables de vous dire des choses sous l'effet de la colère ou de faire des choses. Quelques minutes plus tard, ils ont... La personne t'a insulté, elle va te dire « t'aime ». Parce que ce qu'elle te dit n'est pas fonction de ce qu'elle pense, mais de ce qu'elle ressent. Vous m'entendez? Les introvertis, par ailleurs, sont considérés comme des rancuniers. Parce qu'en réalité, leur façon de fonctionner est vers l'intérieur. Ce qui fait que, comme eux-mêmes n'explosent pas et ne vont pas dire des choses sur la base de leurs émotions, quand ils reçoivent une parole, pour eux, elle n'est pas émotionnelle, elle est réfléchie. Et donc, ça leur fait plus mal quand ils reçoivent une injure, quand ils reçoivent une certaine parole qui les blesse, parce que pour eux, à ce moment-là, la personne a fait un choix. Alors que pour l'extraverti, c'était une réaction. Pour l'intro, c'est un choix. Vous comprenez? L'inconvénient de ça, c'est la rancune, c'est le temps que ça met pour guérir, mais c'est aussi que les intros sont très lents à la détente. Ce ne sont pas des fonceurs. Ils ont besoin de maîtriser tous les contours. Ils n'aiment pas échouer, mais en fait, ils vivent l'échec différemment des extras. Un échec est capable de paralyser un intro. Quand un échec fait dire à un extra, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on essaie autre chose. Vous comprenez? Et donc, l'avantage des intros, c'est que quand ils s'engagent, ils sont comme des pitbulls. Ils attrapent, ils lâchent pas. Parce que très souvent, ils prévoient les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Ils s'asseyent, ils comptent, ils vérifient, ils se disent, il y aura telle ou telle possibilité. Ils vérifient s'ils sont capables de répondre à telle ou telle alternative. Et avant de s'engager, ils ont vu quasiment tout. Les extras disent, on va voir devant. Maintenant, suivez-moi. C'est majeur ce que je vais dire. Dieu est les deux. Pour connaître Dieu, pour découvrir qui est Dieu dans sa totalité, vous avez besoin de quelqu'un qui est différent de vous, mais qui va vous présenter une facette de Dieu que vous, naturellement, vous ne connaissez pas, vous ne vivez pas. Jésus dit, avant de bâtir une tour, il faut s'asseoir, il faut compter le prix. Avant d'aller en guerre, il faut s'asseoir, vérifier, sinon, là, c'est un intro. Mais en même temps, Jésus va marcher sur les eaux. Et puis il va dire, viens, ça c'est un extra. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Jésus va prendre un foie, il va renverser une table, ça c'est un extra. Jésus va être avec Simon le lépreux et il y a une prostituée qui arrive. Et Simon parle dans son cœur de la prostituée et il va dire à Simon, vois-tu cette femme? Ça c'est un intro. Parce qu'il prête attention aux détails. Les intros sont dans les détails. Les intros voient les visages, les changements de trucs que les extras ne voient pas. Un extra blesse les gens, il ne sait même pas. Il a dit quelque chose, la personne en face se sent blessée. Elle ne voit rien, il ne voit rien. Il y a quelqu'un d'autre à côté qui est en train de dire, oh, regarde comment tu as blessé l'autre. Blessé comment? Non, il est trop faible, il doit... Oh, la vie, ce n'est pas pour les gens faibles. La vie, c'est pour les gens qui sont capables de prendre des coups. Non, il ne faut pas être une femme laide, c'est quelle histoire? On te parle un peu mal, tu boudes. Mais on va mal te parler dans la vie, il faut se battre. Ah, c'est les extras. Puis les intros vont considérer que non, il faut savoir parler aux gens, il faut savoir dire les choses. Ça, c'est un intro. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des défauts. Il y a des défauts liés à notre vécu, les personnalités. Prends ta question. Ensuite, je termine. Non, après, il y a Samantha. Ensuite, la réunion. Et c'est fini.
Bonjour mon évêque.
Bonjour.
En gros, vous avez déjà un peu répondu à ma question.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
J'en avais deux.
Ah.
Du coup, ma question est la suivante. Je suis extraverti, j'ai pas du mal à être avec les autres, etc. Mais je suis quelqu'un, j'ai l'impression que je ressens les émotions beaucoup plus profondément que les autres. Et ma question est la suivante. Comment faire en sorte que cela n'impacte pas sur ma personnalité, sur ma façon d'être?
Bon, la personnalité, c'est un nom de Dieu. Vraiment, c'est le caractère très souvent qu'on peut changer. La personnalité, Dieu nous a fait comme il nous a fait. Il les a fait hommes et femmes, ça c'est Dieu. Peut-être il y a du prophétique, c'est certain qu'il y a du prophétique dans votre vie, ce qui fait que vous ressentiez les choses. Mais là où moi je pense que vous avez parlé comme une extra, c'est quand vous avez dit vous ressentez les émotions plus profondément. Comment tu sais? Comment tu sais que là, quand tu ressens, oh, c'est plus profond que ce que... Parce que tu ne sais pas ce que les autres sentent. Oui, dis.
En fait, justement, il y a des fois où je ressens les émotions des gens. Et il m'est arrivé de ressentir ce que la personne ressent et ressentir ça plus fortement. Ou du moins, quand je ressens ça, je suis quelqu'un, je lui parle de ce qu'elle ressent. Et moi, je suis en train de pleurer, je suis dans tous mes états. Et je suis même en mode genre, tu supportes ça comment?
C'est ça mon problème. Tu viens de dire que c'est sa propre émotion que toi tu ressens. Plus fort qu'elle qui ressent son émotion. Dieu t'a prêté pendant quelques secondes. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est qu'en réalité, Légion, c'est le nom d'un démon. On considère qu'ils sont au moins 2000. Ils habitent dans un homme. L'homme est fou. Les 2000 démons qui vivaient dans lui sortent un à un et entrent un à un dans un cochon. Les 2000 cochons se jettent. Ça veut dire que ce que l'homme a supporté pendant des années, en un instant, les cochons lui vivent avec ça, on refuse, on meurt. Lui, il avait 2000. Les cochons avaient individuellement un. Il est devenu fou, il s'est déshabillé, mais jamais il n'a sauté. Vous comprenez ce que je dis? Ce que j'essaye de dire, c'est quoi? C'est que Dieu nous donne à chacun la capacité de supporter ce que chacun doit supporter. Et quand Dieu nous permet parfois d'expérimenter ce que l'autre supporte, nous, comme ce n'est pas pour nous, ça nous met dans tous nos états. Parce que c'est supposé être quelque chose de passager, on ne vit pas avec. Par exemple, nous, on ne sait pas ce que les femmes ressentent quand elles accouchent. Les douleurs de l'enfant. Je suis convaincu que si Dieu essayait de nous donner une minute, la douleur qu'une femme supporte pendant 9 mois, une petite contraction, on va crier tous nos parents, on va tomber, on va dire on meurt. Tue-moi, Seigneur, si c'est ça, si c'est ma fin, si c'est la fin de ma vie, prends-moi, prends-moi. C'est parce qu'on n'a pas été fabriqué, conçu pour ça. Mais l'empathie nous permet de ressentir très courtement, d'avoir une idée de ce que l'autre sent. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet que tu ressentes, comme tu dis, les émotions des autres si fortement? Pour la prière, pour l'intercession. Parce que toi, tu as besoin que ton âme soit impliquée quand tu vas prier pour elle qui ressent ce que normalement tu ne ressens pas. Donc Dieu vient de te donner un fardeau.
Bonjour à tous. Ma question, c'est de savoir comment faire dans une relation où on te reproche de ne pas te livrer. Je m'explique. C'est pas une seule personne qui m'a reproché le fait de ne pas raconter ma vie, de ne pas raconter ce que je vis, ce que je traverse. Par exemple, la personne a une facilité à me raconter ce qu'elle vit. Par exemple, si elle passe par une situation difficile ou elle a quelque chose qui ne va pas, elle a une facilité à me parler. Mais moi, quand je vis une situation difficile, quand je passe par quelque chose, je ne vais pas vers la personne et cette personne me reproche le fait de ne pas venir lui dire ça. Et ce n'est pas une seule personne, mais plusieurs personnes de mon entourage. Comment faire?
D'accord. Question. Est-ce que tu parles à quelqu'un de ce que tu vis?
Oui.
D'accord. Mais ce n'est pas les personnes qui te le reprochent?
Oui.
Pourquoi tu ne leur parles pas?
Parce que je ne ressens pas le besoin, je n'ai pas envie.
Ok. Ça veut dire que votre relation doit être définie. Vous n'êtes peut-être pas amis dans le même sens du terme. Ok. Jonathan et David sont vraiment en alliance. Mais ils ne se donnent pas la même chose. L'une des difficultés qu'on a très souvent dans nos relations, que j'ai entendu beaucoup dire, c'est ce que je te donne, tu dois me le donner. Mais sauf que l'autre n'est peut-être pas capable de te le donner à cause de la relation. Jonathan va donner à David ses armes. À aucun moment David va donner à Jonathan ses armes. Sauf que David va prendre soin de Mephibosheth, le fils de Jonathan. Dans ton cas de figure, il faut que tu réussisses à expliquer à tes amis et il faut qu'elles acceptent. que c'est beaucoup plus facile pour toi de les écouter que de leur parler, parce que je pense qu'il y a quelque chose que tu leur reproches, avec lequel tu n'es pas à l'aise, qui fait que leur parler est difficile. Il y a des blocages. Ces blocages sont dus, par exemple, je prends un exemple, je n'ai pas dit que c'est une parole de connaissance, mais par exemple au fait que tu les entendes parler des autres et que toi, tu ne veux pas qu'elles parlent de toi. Donc tu ne leur donnes pas les éléments de pouvoir un jour parler de toi à quelqu'un d'autre comme elles te parlent toi de quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui vous écoutent parler des autres et qui savent que le jour où ils sont en problème, ils ne peuvent pas venir vous parler. Parce que vous, vous ne savez pas garder les secrets. Vous n'avez pas la bouche fermée. Tu as compris ma question? Tu as compris ma réponse plutôt? Dernière question, révérende Karel. Et c'est fini. On peut m'encourager, j'ai beaucoup parlé.
Amen. Merci beaucoup, évêque Michel.
Amen.
Merci beaucoup, évêque Michel, pour l'atelier. Vraiment, j'ai été bénie. Merci beaucoup pour le don de ta vie. J'ai une question. Tu as parlé clairement et dans des mots tellement clairs. Et donc, j'aimerais poser cette question. Tu as dit, en fait, ma question est la suivante. Comment faire quand tu as dit à l'autre ton langage, quand tu as communiqué à l'autre ton langage, mais que la personne ne se modifie pas?
Très bien. Je réponds à la question. C'est ta question, hein? C'est la question de tous
donc
les extravertis dans la salle.
Donc, moi, je pose.
Suivez-moi. Qui ici a appris une langue parce qu'on vous a dit « apprends la langue » ? Je vais dire ça différemment. Je te dis par exemple, moi, je parle l'anglais. Mon langage à moi, c'est l'anglais. Parle-moi en anglais. Et à aucun moment, on ne m'a appris l'anglais. Tu es responsable, ça va faire mal, mais ce n'est pas grave. Tu es responsable d'apprendre à autrui avec qui tu es en relation, qui ne parle pas ta langue. Ta langue. S'il ne veut pas, pourquoi tu es en relation avec lui? Suivez-moi. J'ai essayé de faire la différence entre les intros et les extras. Maintenant, les ambivertis sont un mélange. Les ambivertis se tiennent. Et parfois, ils ont les défauts des deux groupes ou les avantages des deux groupes. Ils ne sont pas fonceurs, ils sont réfléchis, mais en même temps, ils sont très expressifs. Vous me suivez? Je réponds à la question. Dire à quelqu'un votre langue, ce n'est pas lui apprendre votre langue. C'est différent. Par exemple, moi j'aime les cadeaux. Pas moi. Hein? Hey. La personne dit, moi j'aime les cadeaux. Moi j'aime les cadeaux. Fais-moi des cadeaux. Moi j'aime des cadeaux. Jamais. Non. C'est même pas comme ça que vous parlez. C'est même pas comme ça que vous parlez. C'est pas comme ça. Voilà. Voilà comment très souvent vous pensez que vous apprenez aux autres votre langage. Donc depuis, toi et moi on est amis. Jamais tu m'offres les cadeaux. C'est moi tous les jours qui t'offre. Ça ne te dérange pas? Ça là, vous pensez que vous êtes en train de lui apprendre que vous aimez les cadeaux. Le sujet dont vous parlez, c'est bien les cadeaux. Mais le langage que vous utilisez, le format que vous utilisez, c'est les reproches. Et quand lui, il entend les reproches, sa première réaction, c'est pas d'entendre les cadeaux. C'est d'analyser la reproche.
Ok, ok. Wow.
Si quand tu me parles, tu utilises le mot jamais ou toujours pour me faire un reproche, tu m'as perdu. Parce que mon cerveau entend, tu ne fais jamais ça. Tu es toujours comme ça. Dès que tu as dit, en tant qu'intro, je rentre en moi-même. Et je vais fouiller toutes les fois où j'ai fait ce que tu as dit que je n'ai jamais fait. Et ces choses-là remontent à la surface. Donc, tu m'as perdu. tu m'as perdu. Parce que à ce moment-là, quand tu me parles, j'ai le sentiment que tu mens. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Non seulement tu mens, mais tu veux me manipuler. Et comme je n'aime pas être manipulé, je réagis à la manipulation que je ressens. Et à ce moment, je te dis non. Tu ne fais jamais, tu ne fais, tu es toujours comme ça. Jamais tu ne penses à, jamais tu ne penses à. Jamais, 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 jamais. D'abord, c'est bon, laisse tomber. Quand toi, si quelqu'un me dit à moi, laisse-moi. Moi, ce que j'entends, c'est laisse-moi. Je n'entends pas, ne me laisse pas. J'entends, laisse-moi. Et je sais que quand je regarde la personne en face de moi, son langage corporel, comment il dit ce qu'il dit, comment il fait ce qu'il fait, à cause de mon background. Donc j'interprète, je sais que là la personne est en train de me dire ne me laisse pas. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve, voilà. C'est-à-dire que pourquoi je dois interpréter toujours ce que tu dis alors que c'est toi qui essayes de communiquer et de transmettre quelque chose. Tu vois? Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que j'aide quelqu'un? Ce qui se passe, c'est que les personnes qui vous écoutent ne vous écoutent pas, elles s'écoutent. Moi, j'ai des extravertis dans ma vie. J'en ai plusieurs. Plusieurs. Non, j'en ai plusieurs. Plusieurs. Dieu m'a fait la grâce d'être entouré de personnes extraverties. Donc, par la force des choses, par l'observation, j'ai appris le langage des extravertis, plus ou moins. Et je me suis rendu compte que quand je parle dans mon langage d'introverti, et vraiment, je choisis mes mots. Il n'y a personne sur la surface de la terre, à mon sens, qui peut dire que je lui parle mal ou que je lui ai mal parlé. Parce que je suis très prudent. Donc, je choisis mes mots. Mais quand je choisis mes mots et que je parle avec un extra, écoutez-moi bien. Le fait que je parle avec le choix des mots, je suis convaincu au moment où je parle en tant qu'intro que la personne comprend les mots que j'utilise en tant qu'intro et doit comprendre. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté parce que je veux même dire, mais moi je communique. Sauf que j'ai découvert au fil des années que certaines personnes, il ne faut pas leur parler. Si vous voulez transmettre quelque chose, ne leur parlez pas intellectuellement. Parlez-leur émotionnellement. Ça veut dire que je dois pouvoir, dans ma façon de dire les choses, ne pas être cartésien. Ne pas être carré, ne pas être blanc, blanc, noir, noir. Parce que le plus important, là, ce n'est pas qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid. Le plus important, par exemple, la personne va faire, tu n'es jamais là, tu es toujours comme ça. Si tu ne voulais pas être avec moi, pourquoi tu m'as abordé? Toi, tu te dis, tu es responsable, tu te dis, hé. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que la personne te dit « rassure-moi ». Ce n'est pas logique, c'est une émotion. Comment donc tu parles ce langage? Tu rassures la personne en fonction du langage qui est le sien pour recevoir l'émotion, soit un câlin, soit des mots, soit des gestes. Mais le but dans ça, c'est quoi? C'est qu'elle se... Écoutez-moi bien. C'est qu'elle se sente rassurée, pas qu'elle sache... Tu ne passes pas par le cerveau pour atteindre son cœur. Tu passes par son cœur pour atteindre son cerveau. J'ai répondu à ta question.
Oui, mais j'avais une autre question dans la même question. Vraiment déjà, est-ce qu'on peut acclamer pour l'évêque Michel, vraiment, parce qu'il parle tellement bien. Mais toujours ma même question, mais là, dans l'exemple fini. Où Vas-y. La personne... Ou c'est négatif, par exemple, tu dis à la personne, par exemple, que tu me frappes. Quand tu me frappes, je prends quelqu'un qui est dans une relation où elle est battue. Par exemple, quand tu me frappes, je me sens rejetée. Mm-hmm. La personne a donné son langage, mais la personne continue, l'autre continue. Ou bien tu vas dire, par exemple, non, quand tu cries sur moi, je me sens rejetée ou bien je me sens pas aimée. Et que la à ce moment, comment est-ce que toi tu vas enseigner à quelqu'un que ne crie pas?
C'est vraiment la dernière chose parce que le temps est fini, il faut qu'on se sépare. Et je ne veux pas déborder, j'ai déjà débordé. Mais je veux vous montrer un texte et je vais essayer de répondre à la question à partir du texte. Ce que je vais dire s'adresse... Là, c'est vrai qu'on sent parler des relations de couple, mais... Ok. Purifie. Ok. La Cypria Ludiba. Nishkan de Pala Daba. Zipale de Para. Likande le Para. Ok. Éphésiens 5, 25 à 27. Et on lira même jusqu'au verset 20. On peut lire longtemps, mais je ne veux pas lire longtemps. Je veux vous aider à répondre à la question. Là, on parle des maris, mais je veux que vous compreniez le concept. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Non, ensemble. 1, 2, 3. Non, si vous faites ça, j'arrête. Je dépose le mic.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé les
gars. 1, 2, 3. Voici ce que le texte dit, c'est le concept que je veux que vous compreniez parce qu'elle a dit quelque chose de majeur. Dans ce cas-là, voici ce que Dieu dit par Paul. Les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié lui-même pour elle. Dans le contexte des couples, on n'est pas dans une réunion de couple, mais je vous parle pour que vous compreniez. La femme va vouloir que le mari se sacrifie pour elle, pour lui prouver son amour. Vous me suivez ou pas? Vous me suivez ou pas? Le problème, c'est que le mari ne se sacrifie pas comme la femme veut. Le mari se sacrifie comme la femme en a besoin. Quand Christ est mort, il n'est pas mort parce qu'on voulait qu'il meure. D'ailleurs, ses disciples ne voulaient pas. Il est mort parce qu'on avait besoin qu'il meure. Donc ça veut dire que le sacrifice que vous faites vis-à-vis de quelqu'un ne doit pas être fonction d'abord de ce qu'il veut, mais de ce dont il a besoin. Vous m'entendez pas? Mais après, tout le reste, c'est Christ s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après la voir purifiée, pour la faire paraître devant lui-même. Ça veut dire que tout le travail de travailler sa femme et sur le mari. Le mari doit travailler la femme qu'il veut avoir. Je vais dire ça différemment. Il y a des relations dans lesquelles tu rentres où tu vas devoir travailler pour que la personne soit comme tu veux qu'elle soit. Tu ne peux pas le faire sans son accord. Mais tu dois être d'accord de travailler. Écoutez-moi bien, il n'y a aucune relation qui ne demande pas du travail. Maintenant, la plupart d'entre nous, ce qu'on veut, surtout quand on a été blessé et qu'on s'est déjà trop investi ailleurs, on ne veut plus travailler. On veut rentrer dans une relation qui nous donne du repos, mais on identifie le repos comme étant l'absence de travail. Vous allez, c'est pas grave, ça va vous faire mal. C'est pas parce que Dieu s'est reposé qu'il a arrêté de travailler. Ça, c'est la Bible. J'avais oublié. C'est pas parce que il y a repos qu'il n'y a plus travail. c'est qu'il y a un autre type de travail. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ok. C'est lourd. D'accord. Je vais essayer de diluer. Quelle que soit la relation dans laquelle tu vas rentrer, amicale, professionnelle, fraternelle, amoureuse, ça va te demander du travail. Si tu n'es pas d'accord de travailler, tu n'auras pas de relation épanouie. Maintenant, il faut que tu saches quel type de travail toi tu peux supporter.
Okay.
Ne va pas prendre sur toi un fardeau que tu ne pourras pas gérer. Les femmes, quand vous aimez, les filles, quand vous êtes amoureuses, vous êtes convaincues que tous les brigands du monde, vous pouvez le changer. C'est pas vrai. Parce que vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Vous pouvez travailler à l'aider à changer. Mais le changement doit être volontaire. Maintenant, en ce qui concerne le travail que vous vous fournissez, vous devez être d'accord de travailler dans le fait d'apprendre. Et l'apprentissage demande du temps. Si après avoir aidé, du moins, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Tu as fait ça une fois, tu as fait ça deux fois, tu as fait ça trois fois. La personne n'apprend toujours pas, te dit elle fait exprès.
Ok.
Maintenant, est-ce que toi tu fais exprès de ne pas apprendre ce qu'elle te dit d'apprendre?
Reprends.
Quand toi tu n'apprends pas, est-ce que tu n'apprends pas toujours parce que tu ne veux pas ou parce que c'est difficile pour toi?
D'accord. Okay.
Parce que ce n'est pas ton naturel.
Ok.
On peut te reprendre, on peut te crier dessus.
Okay.
J'ai un fils, par exemple, avec lequel je suis en relation, on parle. Régulièrement, je lui dis lâche-le. Ça m'énerve. Parce que j'aime pas me répéter. Mais sauf que je suis conscient que si je veux l'aider, je vais devoir répéter. Et je répète, et je dois trouver un moyen. Parce que je veux qu'il comprenne pourquoi je lui dis que c'est pas bon. Parce que ce que je vois, il le voit pas. Ce que vous voyez, les autres ne le voient pas. Vous devez être d'accord d'investir du temps,
okay.
D'investir de l'énergie.
Okay.
Mais vous devez refuser de travailler à aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider.
Ok. Wow.
Si la personne ne fait aucun effort, tout l'effort est sur toi, c'est bad. Le texte qu'on a lu là, où Christ aime l'Église, il la sanctifie, il la purifie, il la purifie par la parole pour la présenter à lui-même. Pur, glorieux, sans tache ni ride. C'est pas sans nous. Christ, par son esprit, nous aide, mais nous-mêmes, on doit dire oui. Ça va.
Très
okay,
bien.
Vous êtes fatigués, levons-nous. C'est bon, on a fini.
Oh, merci, c'était très fort.
On peut acclamer le Seigneur. C'est fini.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.